transversale sur la première.
C'est un vrai mouvement de solidarité. Il a débuté il y a plus de 2 mois maintenant. Des familles, des centaines de familles ont donc décidé d'héberger des migrants du parc Maximilien à Bruxelles. Elles les invitent chez eux pour une nuit ou plus. Ces migrants n'ont pas de titre de séjour. Ils ont pour certains été déboutés ou bien ils ne sont pas demandeurs d'asile et encore moins réfugiés parce qu'ils cherchent à rejoindre l'Angleterre. Du coup, les autorités n'ont rien prévu pour eux. La ville de Bruxelles annonce bien sous peu la mise à disposition d'un immeuble à Arun, mais les familles continueront à se mobiliser. Alors tout s'organise sur Facebook d'abord, et puis au parc bien sûr, où des bénévoles sont là tous les soirs, 7 jours sur 7. C'est là précisément, dans ce parc Maximilien, que débute le reportage de Jean-Marc Virzet et Aline Ouavreille.
C'est toujours impressionnant quand on arrive de les voir dans l'obscurité, se demander nous-mêmes est-ce qu'on aura assez d'hébergeurs ce soir, combien ils seront, dans quel état ils sont, parce qu'on a aussi nos amis parmi tous ces petits gars. Et voilà, on espère en retrouver certains, avoir des nouvelles d'autres. Donc il y a un mélange d'excitation, d'émotion, d'impatience. Bonsoir, vous allez bien ? Très très bien, merci. Mais moi aussi, comme tous
les
jours.
Quand la nuit tombe, c'est le même rituel pour Yundex et la poignée de bénévoles de la plateforme citoyenne. Chaque soir, il prend la direction du parc Maximilien.
J'ai terminé mon premier boulot à 17h30, juste le temps de prendre une douche, manger un petit bout, et puis voilà, il est 20h, un peu 20h15, et on est prêt à commencer la deuxième partie de la journée.
Qu'est-ce que vous faites comme travail ?
Moi, je travaille dans une société dans le domaine de l'énergie, et je suis responsable service client.
Tout autre chose ?
Tout autre chose, et en même temps, ce que je vais faire ce soir nécessite beaucoup de service client, de problem solving, de traitement des plaintes, de rassurer les gens. Donc je vois pas trop de différence finalement, sauf que ce soir j'ai rien à vendre.
Madame a 2 places dans la voiture, donc je pourrais amener chez Rémi.
Ah ouais, génial. Tu t'en occupes ?
Ouais.
Votre rôle, c'est quoi ce soir ?
Ben, comme tous les soirs, c'est accueillir les familles, accueillir leurs chauffeurs également, et puis accueillir tous les gars qui sont en quête d'un hébergement, d'un logement ce soir. Et c'est vraiment essayer, comme chaque soir, de faire un match entre hôtes et invités.
So you don't have any place to sleep. Where are you from, if I may ask?
I'm from Libya.
You're from Libya. Okay, you are alone? Alone, just one person?
Ceux que l'on appelle les invités, ce sont les migrants du parc. Des hommes pour la plupart, autour de la vingtaine, accrochés à leur petit sac à dos. Le plus souvent, ils viennent d'Afrique de l'Est ou du Moyen-Orient.
From Iraq. South Iraq.
From Sudan.
De la Guinée-Bissau.
De l'Afghanistan.
Vous êtes en Belgique depuis combien de temps?
About 1 month.
À peu près un mois. Avant, j'étais en France et avant, en Libye et en Italie.
En Italie. Yes.
Leurs chemins sont différents, mais ils font escale à Bruxelles parce qu'ils rêvent d'une même destination, la Grande-Bretagne.
Je suis resté 2 ans à Calais. Calais a fermé, puis Dunkerque. Fini à Dunkerque, donc je suis arrivé en Belgique. Ça fait 8 mois que je suis dans le parc en Belgique. La Belgique ne donne pas de papier aux Irakiens. Elle nous dit « rentrez en Irak, ne restez pas en Belgique ». Parce que pour elle, l'État islamique, c'est terminé en Irak.
C'est pour ça que vous voulez aller en Angleterre ?
L'Angleterre.
Oui, je veux aller en Angleterre. C'est peut-être enfin mon terminus.
Certains ont donc été déboutés du droit d'asile, ici ou ailleurs en Europe. D'autres sont ce que l'on appelle des cas Dublin. Leurs empreintes ont été enregistrées dans un autre pays européen et c'est à lui de gérer leur procédure. Jusqu'ici, il n'existe pas de structure pour ces migrants sans titre de séjour.
Alors Mehdi Kassoum, vous êtes un des bénévoles de la plateforme citoyenne. Cette grande opération d'hébergement, elle a commencé quand exactement ?
Donc ça a commencé en août 2017. On a commencé en voulant héberger les dames, les personnes âgées, les personnes blessées, les mineurs. Donc on ciblait principalement les personnes les plus fragilisées. Et puis progressivement, les arrestations ont commencé à se rapprocher dans le temps. Au début, c'était 2 fois par mois, puis 1 fois par semaine, et puis 1 fois tous les jours ou tous les 2 jours. Et s'est lancé le pari un peu fou fin août, début septembre, héberger tout le monde. On a commencé le premier soir en annonçant l'hébergement des hommes avec 8 hommes qu'on a pu loger. Et puis ça a explosé de manière exponentielle jusqu'à atteindre le paroxysme avec le Hopkeisen de Theo Franken qui a indigné et donc mobilisé.
Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des arrestations ?
Plus sur le parc, parce qu'on a obtenu une sanctuarisation de l'espace, en tout cas des attroupements provoqués par l'aide humanitaire associative citoyenne, par la ville de Bruxelles. Donc ça permet d'apaiser un petit peu l'ambiance générale. En dehors de ça, oui, effectivement, beaucoup de familles se plaignent aujourd'hui de ne plus voir leurs invités. Des personnes sont envoyées en centre fermé, arrêtées dans d'autres endroits en Belgique, dans les trains, dans d'autres villes.
On a honte pour son pays. On a honte d'avoir un gouvernement qui ne prend absolument pas ses responsabilités. Il faut que ce soit les citoyens qui le fassent. Bon, j'ai assisté à la rafle le fameux dimanche soir où il y a une rafle ici. Ça m'a révoltée à un point que vous ne pouvez pas imaginer.
Tout le monde patiente, souvent dans le froid, avant que les choses ne se mettent en place. Les hébergeurs ont fait des propositions sur la page Facebook. Maintenant, on entre dans le concret. On retrouve Youn qui papillonne d'un groupe à l'autre.
C'est le grand chaos, hein. C'est le grand chaos. Donc ils arrivent tous et nous, on va identifier combien ils sont. S'ils sont tout seuls, par deux, par trois. Donc une famille qui arrive, qui nous dit « Bonsoir, j'ai 3 lits ». On va directement aller chercher 3 personnes qui veulent partir ensemble. On fait la présentation entre la famille et les invités et on souhaite une bonne soirée. C'est tout au feeling, ce sont beaucoup de gens qu'on commence à connaître aussi. Maintenant, on a de plus en plus de nouvelles familles, mais on a énormément d'habitués. Bonsoir. Et on sait aussi combien de personnes directement ils vont chercher.
Bonjour.
Hey, Aldin, ça va?
Allô.
Ok. 1, 3. Ok. Le trio pour Mamie B. 1, 2, 3.
Bien, je m'appelle Catherine et j'accueille des réfugiés depuis déjà 2 ans environ avec mon mari Daniel.
Ça veut dire que depuis le parc Maximilien, il y a 2 ans, vous avez commencé à accueillir chez vous. Il y avait déjà de l'hébergement à cette époque-là ?
Ça n'existait pas sous cette forme-là. Et d'ailleurs, les réfugiés qu'on a accueillis n'étaient pas dans le même cas de figure puisqu'ils avaient pour la plupart déjà leurs papiers. Là, les gens qui passent sont de passage, effectivement, puisqu'ils désirent aller en Angleterre. Et donc, ils restent beaucoup moins longtemps. Et l'accueil se résume souvent à 2 jours ou 3. Et...
Donc, ça veut dire que là, maintenant, vous ne savez pas encore qui vous allez accueillir ?
Ah non, c'est-à-dire que ou bien ce sont des nouveaux, ou alors si on a la chance de voir parmi tous ces gens des têtes connues, puisque ce sont des gens qui, des fois, essaient de passer en Angleterre, mais ça ne marche pas, donc ils reviennent ici pour se refaire héberger. Si on les connaît, on se fait coucou, et s'ils ont envie, ils viennent chez nous, bien évidemment.
Il y a donc les habitués et ceux qui viennent de franchir le pas. Comme Laure, elle a accueilli une première fois la veille, après 3 semaines de réflexion.
En gros, on partage tout son quotidien, donc on partage son univers. Ça veut dire ouvrir sa porte, ouvrir la porte de son univers, de sa chambre, sa salle de bain, son petit déjeuner, l'emploi du temps, étaler aussi ce qu'on a et ce qu'ils n'ont pas. Et donc c'est un contraste qui n'est pas toujours facile à vivre et à appréhender.
Il lui a fallu un peu de temps aussi, mais ce soir-là, Laurane, la trentaine, qui travaille dans l'exportation de bière, a décidé que tous les éléments étaient réunis pour un premier hébergement. Une bénévole lui présente ses invités, un Soudanais et un Érythréen. Elle prend leur nom, puis celle départ.
All right.
Alors Laurane, on est dans votre voiture, on a là... 4 personnes, 2 que vous allez héberger et 2 que vous conduisez quelque part. Vos appréhensions, elles tournaient autour de quoi au début ?
Juste pas d'appréhension. Je connaissais pas juste la plateforme citoyenne. En étant sur Facebook comme tout jeune, j'ai vu cette plateforme qui passait et je me suis inscrite. Et là, tous les jours, on voit des messages des bénévoles, tous les jours, on voit des messages des personnes qui veulent accueillir. Et on se décide assez rapidement, je pense. Voilà.
Vous avez poussé les meubles ?
Non, même pas. Donc c'est pour ça, du jour en jour, on se sent encore plus fautif parce que justement, il n'y a même pas à pousser des meubles. On a une chambre. Donc c'est tellement simple. Donc pourquoi pas sauter le pas rapidement ?
Hi, nice to meet you.
L'appartement est chaleureux et c'est Paul, le compagnon de Laure, qui installe les invités dans la chambre d'amis.
Et voilà, hier, c'était des copains qui dormaient après une galère. Et aujourd'hui, une autre solidarité. Bah, c'est vrai que c'est quelque chose qui vient plutôt de Lorraine, quand c'est elle qui a entendu parler de la plateforme. Puis voilà, mais bon, après, moi je partage tout à fait la démarche, c'est une problématique voilà, qui nous touche tous, et donc si chacun peut y aller de sa petite contribution.
Mais puis là, de les voir, est-ce que ça change un peu tout, finalement, de se dire.
Ben oui, c'est vrai qu'il y a quand même une. Ça concrétise là, un peu la problématique, parce que c'est vrai que tant qu'on n'est pas directement confronté à eux, ben, ça reste finalement très, très abstrait. Ça simplifie encore les choses de voir des gens en chair et en os qui sont comme nous, quoi. Et là, ça fait combien de temps que tu es arrivé en Belgique ?
9 mois.
9 mois que tu es parti d'Érythrée.
Mathias est érythréen. Il parle un peu français, est timide, a peur de déranger. Il tombe de sommeil, mais raconte les grandes lignes de son voyage. Un bandage fait le tour de sa main, un souvenir douloureux de Libye. Fatigué ?
Ouais, ça va.
2 jours sans dormir ?
Ouais, pour 2 jours.
Plus de 2 jours. Dans le parc ?
Ouais.
Vous avez quitté depuis longtemps ?
Ça fait en ce moment 8 mois.
8 mois ? Vous voulez aller où ?
Inglaterre.
En Angleterre ?
J'ai une famille là-bas.
Vous êtes allé où en Italie ?
Italie.
À Lampedusa ?
Lampedusa.
À Lampedusa.
Foggia.
Foggia.
Près de Milano.
Oui, après moi, là, c'est là.
Et l'italien, comment c'est ?
Italien.
Qu'est-ce qui va se passer ensuite ? C'est quoi le programme ?
Alors, ils ont tellement l'air fatigués qu'on va juste les laisser dormir. Il y en a déjà un qui est sorti de sa douche et qui dort déjà. Donc, on ne va pas les déranger. Je vais les réveiller déjà demain matin puisque je dois aller travailler. Donc, ça va être tout. Ils avaient déjà mangé. Donc, c'est très simple. Ils dorment et c'est tout.
Merci, mais bonne nuit alors. Hein. Depuis août dernier, la plateforme hébergement enregistre 16 000 nuitées. Les familles fixent elles-mêmes leurs règles, le nombre de nuits, le nombre d'invités, ce qu'elles décident d'offrir, le petit déjeuner, une lessive, l'accès au Wi-Fi. Cela fait plus de 2 mois que cela dure et de mémoire de réfugiés, cette solidarité, c'est du jamais vu.
La Belgique est très bonne avec les réfugiés. Quand j'étais en Finlande, j'ai entendu que la Belgique faisait ça, mais je n'y croyais pas. Je suis passé par tellement de pays, au Danemark, en Suède, en Finlande, et je n'ai jamais vu ça. La Belgique restera gravée dans mon esprit. Quand je serai marié et que j'aurai des enfants, je leur dirai que les meilleures personnes au monde sont les Belges.
Cette exception belge a sans doute une explication. La loi belge est plus souple qu'ailleurs en matière d'aide aux personnes illégales. C'est Alexis De Soif, président de la Ligue des droits de l'homme, qui nous l'explique.
Dans de nombreuses législations en Europe, en Belgique aussi, il y a une interdiction d'apporter une aide aux personnes pour traverser des frontières, pour se maintenir illégalement sur le territoire, et ça s'appelle le trafic d'êtres humains. Mais en Belgique, on a une exception humanitaire, à savoir que si cette aide est, et ce sont les termes de la loi, principalement humanitaire, ce n'est pas punissable. C'est différent en France. En France, il faut que la personne à qui on apporte son aide soit en situation de détresse. Et c'est pour ça que quelqu'un comme Cédric Herrou, par exemple, est poursuivi devant les tribunaux français, même si le parquet se grandirait de ne pas poursuivre ce genre d'acte de solidarité.
Cédric Herrou, cet agriculteur qui achemine les migrants à la frontière italienne, c'est bien ça hein ?
C'est bien ça, dans la vallée de la Jora, où des migrants qui viennent d'Italie sont parfois pris au piège par la nuit dans les montagnes, et il est venu en aide de manière organisée avec d'autres citoyens. Et c'est justement cette organisation dans l'aide qui dérange les pouvoirs publics, parce qu'ils craignent toujours, et c'est le même argument chez nous, ce fameux appel d'air, comme si en étant solidaire à Bruxelles, des gens en Syrie, au Soudan, en Érythrée se disent « Ah, mais j'ai entendu qu'au parc Maximilien, des citoyens viennent loger les migrants, du coup, moi, je vais aller à Bruxelles ». C'est évidemment absurde de dire ça. Je pense que la solidarité, eh bien, elle est obligatoire, elle est nécessaire, sinon on pourrait parler de non-assistance à personne en danger.
Légal ou pas, Jo Lamotte ne s'est probablement pas posé la question. La soixantaine, elle fait partie des familles qui hébergent depuis le début. Et ce sont souvent les mêmes invités qui reviennent pour un séjour à la campagne. On est à une 40aine de kilomètres de Bruxelles.
Dès qu'ils arrivent, ils mettent leurs pantoufles, ils sont à l'aise, ils sont cool. Et ils sont vraiment... Même Moi, ça fait quand même presque 2 mois, donc ils sont vraiment intégrés et ils ont vraiment leurs petites habitudes, ils savent où ils doivent aller. Parce qu'au début, c'était plus compliqué, il y avait l'intendant, je devais tout le temps leur faire à manger et tout parce qu'ils n'osaient pas bouger. Là, maintenant, ils commencent à faire à manger même.
Comment ça se passe concrètement? Comment est-ce que ça s'organise? Ils font appel à vous quand ils sont de nouveau de retour? Parce qu'en fait, il faut expliquer qu'ils veulent retourner au parc parce qu'ils veulent passer en Angleterre. C'est ça leur rêve?
Ben voilà, le jour où ils arrivent, ils sont très fatigués. Il y en a un, je l'ai récupéré trempé. Il n'avait pas dormi depuis je ne sais pas combien de nuits, je crois. Il s'est endormi. On l'a assis dans la voiture, il s'est endormi. Et puis il récupère. Et alors, il faut un jour, il dort beaucoup. Et puis après, c'est génial. Et ce qui est fou, c'est que au plus je leur parle, parce que moi, je ne parle quasiment pas anglais, quasiment pas arabique. Mais l'autre jour, il m'a raconté, l'autre soir, il a raconté à ma fille et moi tout son voyage. Et j'ai tout compris. Parce que maintenant je le connais. Donc il parlait avec les mains, puis il me montrait sur la tablette, puis il m'expliquait tout son voyage. Mais j'ai tout compris. Et ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on avance aussi? Parce qu'au début, je comprenais rien. Mm-hmm. Il me demandait des choses. Un jour, il m'a demandé un parapluie, je croyais qu'il voulait prendre sa douche. Enfin, le fait d'être en famille, je trouve qu'il parle des mots de français, ils évoluent dans le décontracté. Au début, quand ils arrivent, ils mangent presque rien. Et au fur et à mesure du séjour, on les voit, ils mangent, ça se détend. Et voilà, et je crois qu'ils voient que c'est cool, qu'on les aime, parce que c'est vrai, en plus. Moi, je suis fort attachée à eux, mais toute la semaine, on leur envoie des messages tous les jours.
En fin de matinée, ça bouge à l'étage. On rencontre John, ce n'est pas son vrai prénom, il préfère que l'on brouille les pistes.
Je m'appelle John, je viens du Soudan. That's all what I know about this language. Yeah. Sorry.
C'est un ado comme les autres, la vingtaine, casquette vissée sur la tête, les yeux rivés sur son smartphone. Il a appris l'anglais en regardant des films d'action quand il vivait encore au Soudan. Sa vie est faite d'exil. Il habitait au Darfour et a traversé la Méditerranée. Cette famille qui l'accueille, c'était inespéré pour lui.
Ici, je me sens comme à la maison, sérieusement. Je peux faire ce que je veux, quand je veux. Et Joe est comme ma mère. Et Jade et Harmony sont comme mes sœurs. Je n'avais plus ressenti cette sensation depuis que j'ai quitté mon pays, ma maison. Ça fait plus de 4 ans que je vis dans la rue. J'avais 17 ans quand j'ai quitté mon pays. Joe, elle sait ce dont j'ai besoin avant même que je ne le dise. Sérieusement, si j'ai faim, elle le sent. On est connecté, au-delà des mots. Les mots sont insuffisants.
Le plus dur pour moi, c'est quand on les ramène.
Harmony est la fille de Joe.
Parce que ils prennent leur décision, ils nous disent ça le matin. Et alors là, ils se taisent, ils se renferment complètement. Et ça, c'est très dur pour moi de... Voilà, je me sens impuissante, j'ai envie qu'ils restent. Donc je leur dis, vous pouvez rester, il n'y a aucun souci. Mais ils veulent quand même repartir, ce que je comprends aussi. Et c'est pas une prison ici, c'est justement, c'est pour qu'ils puissent se sentir bien.
J'espère vraiment réussir à aller en Angleterre, rejoindre mon frère. Je veux aller là-bas pour trouver du travail et aider ma famille, c'est tout ce que je veux.
Votre frère, il vous dit quoi de la vie en Angleterre?
Il n'a toujours pas de papier, mais il travaille. Chaque mois, il envoie de l'argent à ma famille. Il dit que là-bas, tout est parfait. Il n'y a pas de problème. Si tu réussis à entrer dans le pays, le reste sera facile. Ça fait 6 mois que j'essaie ici. Je n'ai pas encore été très chanceux, mais je continuerai à essayer. Parce que je n'ai pas d'autre choix.
Ils ont tellement la force en eux de tout qu'ils vont y arriver peut-être. Et peut-être sûrement. Enfin, moi j'y crois. Je me dis, voilà, je leur souhaite de tout mon cœur en tout cas.
Certains y parviennent. Pourtant, la Grande-Bretagne, elle aussi, applique le règlement de Dublin, même si elle ne fait pas partie de l'espace Schengen. Cela veut dire que Londres peut, elle aussi, renvoyer les migrants vers le premier pays qu'ils ont traversé à leur arrivée en Europe. Des aventures comme celle de Joe, on en lit à l'appel sur la page Facebook de la plateforme citoyenne. Des moments forts des hébergeurs.
Premier soir d'accueil pour nous, très stressé, mais le foot, une bière et un coca, et on rigole avec M&A. On dirait une soirée entre amis.
M et O sont arrivés avec la brume du soir. Il y a peu d'échanges, mais tellement de respect. On recommencera.
À vous les chevilles ouvrières de la plateforme, active qu'il pleuve ou qu'il vente, je vous témoigne tout mon respect et mon admiration.
Mais il y a aussi des expériences plus compliquées.
Le jeune homme que j'ai accueilli est complètement perturbé. Il a un ami imaginaire à qui il parle tout le temps. Il rit, il pleure et c'est perturbant pour mes trois enfants.
J'ai eu une mauvaise expérience et ça me refroidit. Un message à 5h du matin d'un ancien invité. À midi, il était devant ma porte avec deux femmes.
Alexandre Lorsmassard héberge lui aussi des invités depuis plusieurs semaines. Et derrière cette action, il y a, dit-il, quelque chose qui nous dépasse.
La première personne reçue, c'est compliqué quand même. Enfin, parce qu'il était parti, il avait loupé son coup en Angleterre. Et donc il était revenu et le soir où il m'a rappelé, on ne pouvait pas l'accueillir. Et ça c'est dur, ça fait mal. Tant qu'on parle du parc Maximilien, ce sont des inconnus dans le parc. Quand vous mettez une tête, une voix, vous avez passé le cap, c'est trop tard. Il y a une culpabilité, mais je pense qu'elle est liée à l'impuissance. Mais nos actions aujourd'hui ne résoudent pas la crise. Elles mettent un pansement dans quelque chose qui ne va pas s'arrêter.
Toutes ces questions risquent de perdurer. Le plan hiver puis le centre de Haron ne pourront pas accueillir tous les migrants du parc. Et la volonté de la plateforme, c'est de continuer l'hébergement dans les familles. Les quelques nuitées de dépannage deviennent du long terme. Mais alors qu'en pensent les professionnels? Sotieta Ngo est la directrice du CIRE, la coordination et initiative pour réfugiés et étrangers.
C'est magnifique cet élan citoyen, mais il ne fait que répondre à une lacune des pouvoirs publics en la matière. Et donc, un regard vraiment partagé entre les deux. Savoir que les citoyens sont là et se mobilisent de plus en plus en nombre, c'est magnifique. Mais dans quelles circonstances, c'est beaucoup plus triste.
Parce que ça ne s'improvise pas non plus d'accueillir quelqu'un qui a vécu justement des choses difficiles.
Évidemment, ce sont des personnes qui sont en errance depuis plusieurs mois et donc qui sont pleines de frustration, d'incompréhension, d'espoir, déçus ou d'espoir encore entretenu. Et donc c'est une source de tension pour eux, comme pour les personnes qui les logent. C'est pour ça que les professionnels que nous sommes, les associations, réclamons depuis plusieurs mois maintenant la mise en place d'un centre d'accueil et d'orientation que l'on aurait pu encadrer avec les moyens dont nous disposons, qui sont pas assez élevé, mais de toute façon plus élevé que ceux dont disposent les citoyens qui s'organisent bénévolement. C'est essentiel d'encadrer psychologiquement les personnes qui sont accueillies ici pour être sûr que tout est bien géré à ce niveau-là et pour être sûr que ce ne sont pas des bombes à retardement.
Est-ce que vous craignez qu'un incident puisse ensuite éclabousser justement toute cette chaîne de solidarité?
Je pense que si un quoi qu'il arrive, il ne pourra pas éclabousser l'élan de solidarité qui s'est manifesté ici. Parce que tenir pour responsables les personnes qui assument là où les autorités n'assument pas, ce serait un tout petit peu trop facile. Jamais les citoyens qui s'impliquent devront tenir être responsables des couacs qui se passeront. Je crains effectivement que des couacs se passent. Mais les premiers responsables, ce seront les autorités publiques.
Il y a moyen pour tout le monde aujourd'hui. Voilà. Mathieu.
De retour au parc ce soir-là, les derniers départs, et puis malgré les derniers appels sur Facebook, plus de lits proposés. Il reste des dizaines de garçons dehors. Les bénévoles, Adriana, Clara, Mehdi, Youn et les autres, ont perdu le sourire.
Ben voilà, et ben nous on n'a plus de famille non plus qui se manifeste. Et je crois qu'on va devoir souhaiter une bonne nuit à ces 50 personnes qui vont passer la nuit dehors. Et on va rentrer plein de culpabilité et avec un sentiment vraiment d'impuissance et d'une frustration et une colère immense, vraiment.
Ça se passe comment justement quand vous devez annoncer ce genre de choses?
C'est eux qui vont nous consoler, c'est déjà arrivé. C'est les toutes premières fois, on pleurait. On pleurait à chaudes larmes. Et c'est ces gars-là qui dorment dehors, qui venaient nous consoler. Et je crois que ce soir, c'est, on s'endurcit un peu. On pleure moins. Mais c'est eux encore qui vont, à mon avis, nous souhaiter une bonne nuit.
Et quelques heures plus tard, sur la page Facebook, on lit « Demain, on recommence ».